Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jodard, le 13 juin 1991.
C'est la question du beau, qui relève à la fois de l'intelligence et de la volonté. On en traitera peut-être un peu après. C'est très vrai que c'est le concours de l'intelligence et de la volonté qui nous permet de saisir le beau. Voyez, puisque la question, au point de vue philosophie du vivant, était de saisir les rapports qui existent entre intelligence et volonté, ce qui est au fond très important et très difficile. Parce qu'on imagine, on distingue sans séparer. Alors, instinctivement, nous séparons et nous projetons sur la distinction intelligence et volonté quelque chose de quantitatif. Comme si l'exercice de l'intelligence et l'exercice de la volonté étaient extérieurs l'un à l'autre. Or, justement, le propre de la distinction de intelligence et volonté, c'est une distinction qui se fait à l'égard d'une réalité spirituelle. Parce que l'intelligence relève de notre âme spirituelle, le nous. Et le nous est une puissance spirituelle. Il n'y a donc pas d'extériorité avec le point de vue de la volonté. Ne cherchez pas à imaginer, hein. Vous pouvez que comprendre. C'est toujours très difficile quand on ne peut que comprendre, parce qu'on imagine tout le temps. Le support imaginatif demande d'être complètement dépassé. Vous ne pouvez pas avoir d'exemple tangible. Notre âme spirituelle a une faculté, une puissance spirituelle qui est l'intelligence, qui est le nous. Et cette faculté spirituelle implique une autre faculté spirituelle qui est la volonté, qui est un appétit spirituel. Alors, quels sont les liens entre les deux? C'était la question que vous étiez posée. Alors, je dis tout de suite, évitons d'imaginer deux facultés qui sont comme deux jumeaux. Deux jumeaux, même s'ils sont deux jumeaux, même s'ils naissent en même temps, même s'ils sont conçus en même temps, sont quand même extérieurs l'un à l'autre. C'est pour ça qu'ils peuvent lutter l'un contre l'autre. Mais ils sont très proches. Ils sont une communauté de vie. Point de départ, très proche. Ils ont vécu ensemble sans avoir conscience qu'ils vivaient ensemble. Mais ce sont deux jumeaux. Imaginativement, on projette sur notre vie spirituelle intelligence et volonté. Comme s'il y avait une rivalité constante. Or, pour bien comprendre le lien qui existe entre le nous, donc l'intelligence, et la volonté, comprendre comment tous les deux s'enracinent dans notre âme spirituelle, il faut comprendre que l'âme spirituelle est séparée de toute matérialité, de tout organe corporel. Et donc, que l'intelligence et la volonté s'enracinent dans notre âme spirituelle. Que entre les deux, il y a un ordre. C'est ça l'intérêt. Il y a un ordre. Ils sont distincts, ils sont ordonnés. Mais cet ordre ne doit surtout pas se comprendre comme un ordre qui implique une extériorité de la volonté par rapport à l'intelligence ou de l'intelligence par rapport à la volonté. C'est uniquement un ordre qui les distingue dans leur exercice. distinguer par leur exercice, c'est-à-dire par leur opération. L'opération de penser n'est pas l'opération de l'amour, de la volonté volontaire. Et pour bien distinguer les deux, puisque ce sont des opérations vitales et immanentes à l'intérieur de notre âme spirituelle, nous regardons leur objet. C'est l'objet qui distingue. Je fais ça à partir de mon expérience. J'ai une expérience d'amour et une expérience de pensée. Cogito, cogito. Amo. En latin, ça va mieux. Cogito, intelligere, est amo Socratem. Et j'aime Socrate. Hein? Aucun qui dit ça. J'ai l'expérience de penser, je pense. Puis j'aime. Je vois très bien que c'est deux actes très différents. Et pourtant, c'est deux actes très intérieurs que je porte en moi. Personne ne voit, sauf si je rougis, que j'aime. J'aime. Telle personne. C'est un secret. Et je pense à telle personne. Personne ne le voit. C'est intérieur, c'est immanent. Je peux évidemment l'exprimer, le dire, mais mon amour et ma connaissance sont antérieurs à mon expression et à mes gestes. Donc je porte en moi cela. Et j'étudie qu'est-ce que c'est que ces deux opérations. Je vois que l'opération d'intelligence, nous l'avons vu, implique une certaine diversité et implique l'appréhension, le jugement, le raisonnement. Ils sont trois dans l'unité. Et je vois qu'au point de vue de la volonté, c'est vrai, l'acte d'amour prend des modalités diverses que je connais. Je les connais très bien au point de vue éthique. J'aime le simple amour. Je suis saisi par l'amour. J'aime. J'ai l'intention. Je choisis. Tout ça sont des actes de volonté. Puis je m'applique. J'obéis. L'obéissance, c'est un acte volontaire. Bon, j'ai ces différentes activités. Je vois que c'est très très différent au point de vue de l'opération vitale. L'opération vitale de connaissance implique une immanence très forte, puisque celui que je connais, je le porte en moi. Tandis qu'au contraire, l'acte volonté, c'est encore une immanence, mais une immanence qui est tendance vers. Je tends vers celui que j'aime. L'amour est extatique. Il fait sortir de moi. Aller vers. Et quand j'aime quelqu'un, j'ouvre mes bras. Et avant d'ouvrir mes bras, j'ouvre ma volonté. J'aime. Mais je suis tendu vers. C'est bien en moi. C'est bien très immanent en moi. Alors est-ce que c'est une immanence plus grande, celle de l'intelligence, celle de la volonté? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire tout de suite. On va le voir. Quelle est l'immanence la plus grande? Je suis dans l'ordre de l'intentionnalité. Cette immanence est intentionnelle, cette immanence est intentionnelle. Des deux côtés. Mais ces deux intentionnalités différentes, c'est celle de l'intelligible et c'est celle de l'aimable. Je peux distinguer tout ça. Il faut le faire. Mais cette intentionnalité a un aspect d'immanence beaucoup plus grand du côté intellectuel, puisqu'elle implique l'assimilation. cette intentionnalité immanente a aussi ce fait que je suis capable de juger. Et en jugeant, j'adhère. Mais je reste dans mon immanence. Je ne modifie pas ce que je connais. C'est pas parce que je connais quelqu'un que je le modifie. Non, au contraire, je le respecte. Et je peux raisonner sur cette personne, analyser, chercher. Tout ça au-dedans de moi-même. Je reste dans l'immanence. Du côté volontaire, c'est la même chose. J'aime. Et je me porte vers celui que j'aime. Mais je sens bien, puisque je me porte vers celui que j'aime, cette union affective demandera de se compléter en dehors de la volonté, dans le rayonnement de la volonté, dans une union affective. L'union affective est du côté volontaire. Elle n'est pas du côté de l'intelligence. L'intelligence ne demande pas par elle-même de se compléter. Il y a une perfection beaucoup plus grande du côté de l'intelligence. Je contemple la réalité que je connais. Tandis que je ne peux jamais me contenter de l'union affective à l'égard de la personne que j'aime. Je veux l'union affective. Pourquoi ? Parce que l'amour comme tel n'a pas un mode abstrait. Tandis que l'intelligence a ce mode abstrait. Et c'est pour ça que je peux porter beaucoup plus profondément, d'une certaine manière, la réalité que je connais, que la réalité que j'aime. Il faut bien comprendre ça, hein, Saint Thomas revient constamment là-dessus. C'est très intéressant, parce que en théologie, le théologien s'appuiera sur ces deux aspects pour essayer d'expliciter la procession du Verbe et la procession de l'Esprit-Saint. Alors on comprend très bien que saint Thomas a précisé ça très très fort sur Aristote. Aristote ne l'a pas fait beaucoup. Mais je crois que nous pouvons philosophiquement, et c'est très intéressant, de voir le vécu intellectuel et le vécu volontaire. C'est deux vécus totalement différents. Et ces deux vécus que je porte intentionnellement en moi, ils ne sont pas extrinsèques l'un à l'autre. Et parce que justement ils ne sont pas extrinsèques l'un à l'autre, plus je connais, plus je suis capable d'aimer, et plus je suis capable d'aimer, plus je suis capable de connaître. Il y a donc des liens constants de l'un à l'autre. Parce que ce n'est pas extérieur. Mon intelligence n'est pas extérieure à mon amour. Et ça c'est très important, parce que ça me permet de comprendre qu'il peut y avoir une connaissance affective. Il peut y avoir une connaissance effective. Je peux tout porter, mon intelligence, pour mieux aimer, pour aimer plus. Et je peux aussi mettre toute mon intelligence pour être plus proche, union effective. Et je peux tout de suite comprendre qu'il pourrait y avoir un troisième type connaissance qui se servira de l'imagination et des sens pour saisir le beau. J'ai une connaissance intellectuelle du beau. Et donc, c'est important de bien préciser les liens qui existent entre l'intelligence séparée, l'intelligence affective, l'intelligence effective, l'intelligence artistique, esthétique. Je suis important de bien comprendre qu'il peut y avoir une volonté à l'état pur. J'aime. J'aime et je veux aimer. J'aime en vue d'atteindre ce bien. C'est ma fin. L'intention de vie. J'aime l'ami, je le choisis. Et je vais vivre avec lui. Et là, je vois des moments et des niveaux différents de l'acte volontaire. Et ces niveaux différents de l'acte volontaire se mesurent en référence avec le lien, la cour, la coopération de l'intelligence et de la volonté. Plus l'intelligence coopère, plus je m'écarte de l'amour pur. L'amour pur est au-delà de l'intelligence. J'aime. Tandis que quand je veux atteindre ma fin, l'intention de vie, le choix, l'intelligence est beaucoup plus proche. Et dans l'application de ma vie, l'intelligence est beaucoup plus proche. Donc vous voyez, je vois tout de suite ça. Dès que je réfléchis sur le vécu de ma vie intellectuelle, le vécu de ma vie amoureuse, je vois tout de suite que de fait, il y a des liens constants entre intelligence et volonté. Il y a un réseau constant. Il n'y a pas de rivalité. Il peut y en avoir. Je peux en introduire. Alors, ce sera intéressant, au moins posons-nous la question, d'où viendront ces rivalités ? Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir des rivalités entre intelligence et volonté ? Et je vois qu'il y a une autre coopération tout à fait différente, qui se fait alors beaucoup plus avec l'imagination et les sens, où je vois que la volonté cependant est présente par rapport au mot. Alors, essayons de comprendre les lignes de force qui vont me permettre de comprendre la distinction et la non-opposition. Voilà ce que je dois dire. Le nous regarde le vrai, la ratio veri. La volonté regarde la ratio body. Et puis, il y a la ratio pulcri, qui est le point de vue du mot. Donc, le vrai, l'être. L'être et le bien. La forme et la beauté. Je ne dis pas l'être et le beau. Tout de suite, je dois préciser ça. Ça, point de vue critique, hein. J'ai acquis ça, ce qui me permet de mieux comprendre exactement ce qu'est l'opération intellectuelle, ce qu'est l'opération volontaire, ce qu'est l'opération qui atteint le mot. Alors, dans l'analyse, je peux donc préciser qu'une opération intellectuelle digne de ce nom atteint toujours le vrai. Qu'une opération volontaire, dans ce qu'elle a de plus profond, atteint le bien. Et qu'une opération artistique atteint le beau. Je peux donc, à partir de là, préciser, puisque c'est toujours le vrai, le bien et le beau qui spécifie, qui détermine, donc qui structure. Le vrai, je l'assimile, il touche l'être, convertible avec l'être. Je l'assimile, le vrai, et j'y adhère. Il y a les deux mouvements. Jugement. Je suis capable de l'assimiler, mais pour bien l'assimiler et pas tomber dans l'imaginaire, j'y adhère. Et en y adhérant, je l'assimile. Et en assimilant, je t'y adhère. Les deux mouvements constants de la vie intellectuelle. Au point de vue vital. Il faudrait se demander comment ces deux mouvements se retrouvent dans le raisonnement, se retrouvent dans la dialectique. Lorsqu'il s'agit du bien, le bien m'attire. C'est tout à fait différent. Le bien m'attire. Le bien me fait sortir de moi. Le bien trouver, comme dans l'intelligence, deux mouvements. Un mouvement extatique qui me fait sortir l'amour, le bien attire. C'est l'attraction du bien. Et le bien, en même temps qu'il attire, dans l'amour d'amitié, il demande d'être reçu. Il y a l'accueil. Et je prends tout de suite l'amour d'amitié, puisqu'au fond, la ratio boni est parfaite pour moi. Le premier pose de la ratio boni, c'est l'ami. L'ami, il m'attire, et l'ami, je le reçois. Donc, vous voyez, analogiquement, comme vous avez deux mouvements de l'intelligence, vous avez deux mouvements de la volonté. Assimilation et adhésion, extase et attitude réceptive, l'accueil. Très étonnant de voir ces deux choses-là. C'est intéressant parce que ça montre, vous voyez, que nous ne saisissons pas directement le point de vue spirituel. Nous sommes obligés, ça fait partie de notre connaissance intellectuelle qui se fait par l'abstraction. Nous sommes obligés toujours d'exprimer par les deux mouvements, aussi bien l'intelligence que la volonté. Vous ne pouvez pas avoir intuitivement ce qu'est l'intelligence, ce qu'est la volonté. Vous voudriez bien, ça serait tellement plus simple. Je ne peux pas. Et lorsqu'il s'agit du mot, ah, c'est différent. Le mot, j'en ai l'intuition. C'est la première intuition intellectuelle, c'est celle du mot. J'en ai l'intuition. Le mot, c'est ce qui me ravit. Le mot, c'est ce qui est capable de m'attirer et en même temps que je garde au-dedans de moi-même, je suis séduit. L'aspect de séduction. Qu'est-ce que c'est que la séduction? Pour bien comprendre ce que c'est que le mot et cette opération intellectuelle particulière qui tend vers le mot, il faut comprendre ce que c'est que la séduction. Donc vous voyez, assimilation, extase, séduction, attraction. Il faut dire plutôt assimilation, attraction, séduction. L'attraction n'est pas la séduction. Et la séduction n'est pas l'attraction. Et la séduction n'est pas l'assimilation. C'est les trois. Donc vous voyez là comment il peut y avoir dans ma vie intellectuelle trois mouvements différents. La connaissance est parfaitement lucide. L'amour n'est pas parfaitement lucide. Et la séduction non plus. La séduction peut être très imaginative. Vous êtes séduit le matin, puis à midi vous revenez, vous l'êtes moins, et le soir plus du tout. C'est le problème de la séduction. Oui, parce que la lumière joue un très grand rôle dans cette question de séduction. C'est vrai, pour un paysage, des paysages qu'on a admirés, puis 10 minutes après, plus rien. Comment ça se fait? La lumière, la séduction. Bon, ceci vous montre les trois lignes spirituelles, d'immanence spirituelle. Trois couleurs différentes. L'immanence intellectuelle, l'immanence affective, volontaire et l'immanence artistique. Puis-je mettre un ordre dans ces trois? Je constate la diversité des trois et l'immanence des trois. Et je précise par leur caractère, par leur détermination. Puis-je mettre un ordre entre ces trois? Oui, s'il y a trois, il y a nécessairement un ordre, il y a nécessairement donc un premier. Et l'ordre peut être différent. l'ordre peut être différent. Parce que il peut être selon un ordre génétique et selon un ordre de perfection. Toujours se rappeler ça. Pour moi. Alors, précisons. Lorsqu'il s'agit de l'intelligence, cet ordre de connaissance, connaître, posséder autant de moi-même, ou contempler, adhérer. Cet ordre de connaissance, il est bien premier, puisqu'il fait toucher l'être. Le rapport entre le vrai et l'être est un rapport plus premier que le rapport entre le bien et l'être. Mais plus premier. Tout être est intelligible. Tout bien est bon. Attention. Un être parfait qui soit bon. Tandis que même un être imparfait a quand même son intelligibilité. L'être en puissance est a son intelligibilité. Une intelligibilité seconde, pas parfaite, mais seconde. Tandis que l'être en puissance n'est pas bon. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, de plus proche de l'être, le vrai, que le bien. Ce qui me permet de dire que l'opération intellectuelle est première dans l'ordre génétique. Je dois d'abord connaître avant d'aimer. Il y a une connaissance plus radicale, plus première. C'est très important de comprendre ça, vous voyez. C'est très très important. Parce que ça me montre qu'il n'y a qu'une seule métaphysique, celle de l'être. Autrement, je pourrais dire, il y a la métaphysique du bien, la métaphysique de l'être. Un peu à la manière de sa bonne aventure. Non, il n'y a qu'une seule métaphysique. Celle de l'être. Pourquoi ? Parce que l'être est fondamentalement premier. Et, d'une certaine manière, est-ce que l'être est premier aussi dans l'ordre de perfection ? Non. N'était pas premier dans l'ordre de perfection. C'est le bien. Alors, quand il s'agit de la volonté est première dans l'ordre de perfection. Donc, ils ont l'un et l'autre leur priorité. L'un et l'autre leur priorité. Une priorité génétique, donc plus proche de ma manière d'être, de ma manière de vivre. Et l'autre, une priorité selon la perfection. Une priorité ultime, le bien. L'être est bon, l'être parfaitement être est bon. Et donc c'est celui qui m'attire, c'est celui qui a la capacité de m'attirer, de mettre en dehors de moi. Donc j'ai déjà là quelque chose. Et lorsqu'il s'agit de la séduction, la séduction ne regarde pas l'être. Regarde la forme, c'est la forme qui séduit. L'être ne séduit jamais. C'est extraordinaire. L'être attire et l'être est vrai. Il ne séduit pas. Le beau mathématique séduit, mais ce n'est pas justement l'être. C'est la forme, c'est la relation. La relation me séduit. Mais la relation n'est pas immédiatement être, elle est forme. Et donc, quand il s'agit du beau, je suis obligé de reconnaître qu'au point de vue de l'intelligence, comme au point de vue de l'amour, ce n'est pas premier. Ce n'est donc pas le beau qui va faire comprendre l'intelligibilité du vrai et l'attraction du bien. C'est sui generis. Je ne peux pas dire que le beau est nécessaire pour connaître le vrai et pour connaître le bien. C'est très intéressant. Et je le vois. vois tout de suite dans l'analyse. Hein. Dès que j'analyse ce qu'est cette séduction, je vois qu'en effet, cette séduction qui regarde le point de vue du beau n'est pas première. Parce qu'elle n'atteint pas l'être. Elle regarde la forme. Donc elle est sur vous. Alors, pouvons-nous encore préciser première dans l'ordre génétique, première dans l'ordre de perfection. C'est très vrai. Ce qui fait comprendre aussi que lorsque je suis en face, non plus de l'absolu du vrai et l'absolu du bien, il y aura constamment des interactions. Constamment un aide. L'intelligent apportera son aide et la volonté apportera son aide pour qu'on puisse cheminer pleinement. Donc il y a un intermédiaire entre les deux. Puisque si l'ordre de perfection n'est pas l'ordre génétique et l'ordre génétique n'est pas l'ordre de perfection, il y a nécessairement entre deux des interférences. Puisque je chercherai à faire que mon ordre génétique s'actue et rejoigne mon ordre de perfection. Et mon ordre de perfection assumera l'ordre génétique. Le premier de l'ordre génétique. Eh bien, c'est ce qui se passe. De fait, dans les interactions de l'intelligence et de la volonté, c'est qu'il y a un aide mutuel. Il y a un aide mutuel de l'intelligence et de la volonté pour tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui n'est pas premier. La volonté doit s'effacer devant le vrai, et le vrai doit s'effacer devant le bien. Pour que je puisse saisir le bien et le vrai dans toute leur pureté. Et je saisis dans toute leur pureté. Mais entre deux, il y a une entraide constante. Une entraide constante de la volonté par rapport à l'intelligence et de l'intelligence par rapport à la volonté. Alors, cette entraide constante, je le vois du côté affectif et du côté de l'intelligence. Je le vois du côté affectif en ce sens que l'amour doit se transformer en intention. Et l'intention doit se transformer en choix. Vous voyez là, l'emprise constante de l'intelligence sur la volonté. Est-ce que vous avez l'ordre inverse? Oui. C'est intéressant de voir amour, commencer à le connaître, intention de vie, choix, application. Un, deux, trois, quatre. Quatre moments. Alors, quand l'intelligence intervient plus, je passe du bien à la fin. C'est l'intelligence qui permet de comprendre que le bien est fin. C'est pas l'amour. C'est intéressant de voir que c'est réservé à l'intelligence. Il y a des amoureux qui sont très amoureux, qui ne savent pas ce que c'est qu'une fin. Alors ils restent dans le confus. Pour le plaisir de rester dans le confus. Ils ne comprennent pas que c'est ça qui finalise. L'ami, le choix, c'est encore l'intelligence qui fait ça. Et qui fait comprendre le côté préférentiel de l'ami. Je te préfère à tous les autres. Ça, c'est le choix. Et c'est l'intelligence. Dans l'application, la volonté reprend tout son poids. Donc, il y a deux actes où la volonté est presque à l'état pur. L'amour premier, l'application. Et les gens qui manquent de volonté, ça sortira toujours là. Et c'est toujours l'imperium, quoi. Il y aura peut-être un imperium, mais qui ne pourra pas aboutir. Parce que l'imperium aboutit dans l'application. Alors, est-ce que je peux établir quelque chose d'analogue du côté de l'intelligence? Parce que là, c'est de l'amour à l'intelligence. Hein? Surtout si vous êtes entre deux l'impérium. Dans l'ordre pratique. Est-ce que je peux essayer d'établir quelque chose de semblable? Intelligence, assimilation. L'assimilation, c'est uniquement l'intelligence. La volonté n'intervient absolument pas. J'assimile. C'est ni bon ni mauvais. J'assimile. J'assimile la quiétude. Quidité n'est pas bonne à être assimilée. Est-ce que vous pouvez dire ça? Toute quidité est bonne d'être assimilée. Elle est mon bien. N'importe quelle quidité. Quidité regarde le point de vue de la détermination, la forme, l'assimilation. Puis il y a le jugement. parce qu'elle juge, les portes sont ouvertes à l'amour. Parce que l'amour peut apporter une nouvelle précision à mes jugements. Je juge différemment quand j'aime quelqu'un. Donc l'amour apporte quelque chose. Et à l'intérieur même du jugement, pour faire un jugement affectif. Alors, vous voyez, j'ai quelque chose d'analogue, hein, comme c'est curieux. Et il y en a que deux, là. Assimilation-jugement. Assimilation, c'est l'intelligence à l'état pur. Et le jugement ouvre les portes à l'amour. Je peux avoir un jugement affectif et un jugement scientifique. Et quand vous êtes petit, un jugement scientifique, vous dites, oh, il est purement objectif. Tout dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez un rat, il vaut mieux le regarder dans un jugement scientifique que le regarder d'une manière affective. Mais quand c'est un tout petit mulot, c'est gentil. Là, vous le prenez dans votre main, et à partir de ce moment-là, vous avez un jugement affectif. Oui, petit mulot, parce qu'il est gentil. Il dit qu'un rat n'a pas envie de vivre. Il a un jugement affectif. Vous voyez, c'est là où vous voyez la différence entre ce jugement qui reste purement objectif pour le rat et pour l'homme. Est-ce que le jugement scientifique est tout à fait objectif? Ou est-ce que c'est le jugement de l'ami qui est le plus affectif, qui est le plus objectif? Pas commun de savoir, tout dépend. Si vous êtes du côté de l'amour d'amitié, le jugement objectif sera un jugement affectif. Si vous êtes du côté scientifique, je veux connaître ce que c'est que l'homme, au plan biologique, au plan psychologique, alors vous évitez l'affectivité. Mais à quel moment connaissez-vous mieux l'homme? Est-ce votre jugement affectif qui regarde l'ami? Est-ce la connaissance biologique purement objective? Discuter là-dessus. Ce qui montre très bien que le point de vue de l'intelligence et le point de vue de l'amour va modifier. Et ici, c'est l'intelligence qui modifie, là, c'est l'amour qui modifie et qui fait des jugements nouveaux, un jugement affectif. Le jugement de sagesse est un jugement affectif.